dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir et merci de nous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous sur VO Afrique. Nous émettons depuis Washington, D.C., la capitale américaine, au micro de présentation John Lyndon, réalisation Michel Joseph. Et installez-vous confortablement, on se retrouve tout juste après. Dans l'Amérique et vous, édition de ce vendredi 7 février 2020, nous parlons de l'acquittement de Donald Trump par le Sénat dans le cadre de son procès en destitution. Donald Trump a été le troisième président américain à faire l'objet d'un procès en destitution, mais comme Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1999, le président Trump a été acquitté grâce au sénateur républicain resté soudé jusqu'au bout. Cependant, les séquelles de ce procès ne vont pas disparaître de sitôt. Au lendemain de son acquittement par le Sénat à l'issue de ce procès en destitution, le président Donald Trump s'est aussitôt déchaîné contre ses opposants politiques. Il a déclaré jeudi lors d'un discours à la Maison-Blanche avoir non seulement enduré une terrible épreuve avec sa mise en accusation, mais aussi dénoncé ce qu'il a qualifié de méchanceté de ses adversaires démocrates. Donald Trump a par ailleurs profité de son discours annuel sur l'état de l'Union pour vanter les bons résultats de l'économie américaine et le bas niveau du chômage. Un discours triomphaliste d'après les analystes. Alors, que penser de l'acquittement du président américain et de son discours sur l'état de l'Union? Voilà qui constitue le menu de l'Amérique et vous ce soir. Nous vous donnons la parole dans cette émission. Faites-nous part de vos réactions sur Facebook ou en direct au 001-202-205-2633. Vous écoutez l'Amérique et vous sur VO Afrique. Et bien sûr, pour nous accompagner au cours des prochaines minutes, nous avons René Lec, analyste politique et administrateur de CNEPlus.com. Vous êtes dans la région de Washington, D.C. René Lec, bonsoir.
Bonsoir, John.
Merci, René. Restez avec nous. Le temps d'accueillir Emilio Viano. Il est professeur des sciences politiques à American University. Professeur Viano, bonsoir.
Bonsoir.
Et pour planter le décor de cette émission consacrée à l'acquittement de Donald Trump, je vous propose à vous, auditeurs, ainsi qu'à vous, mes chers invités, de suivre ce reportage réalisé par Salwa Jafari.
Le verdict qui tenait l'Amérique en haleine est tombé. Le président américain Donald Trump est non coupable.
Le président des États-Unis n'est pas coupable comme chargé dans le premier article de l'impeachment.
Le vote était sans surprise, démocrates et républicains étant presque tous restés fidèles à leurs affiliations. Les démocrates ont martelé que Donald Trump a entaché la démocratie américaine en conditionnant l'aide américaine à l'Ukraine à la contribution de ce pays aux enquêtes sur son rival politique Joe Biden et son fils Hunter. Doug Jones est sénateur démocrate.
Les actions du président démontrent une conviction qu'il est au-dessus de la loi, que le Congrès n'a aucun pouvoir de questionner ou d'examiner ses actions et que tous ceux qui le font à leur risque et péril.
Voici Kamala Harris, elle aussi sénatrice démocrate.
Donald Trump va s'en tirer en abusant de son pouvoir à des fins personnelles, en abusant de son pouvoir pour empêcher le Congrès de se pencher sur son inconduite et en prétendant faussement qu'il a été disculpé. Il va échapper à la responsabilité parce qu'une majorité de sénateurs ont décidé de le laisser faire.
Because a majority of senators have decided to let him.
Les sénateurs du propre parti du président ont divergé sur les raisons pour lesquelles ils ont voté pour l'acquittement. Certains ont fait valoir que Trump agissait entièrement dans le cadre des pouvoirs de sa fonction. John Cornyn est sénateur républicain.
La révocation du président pour avoir fait valoir des privilèges reconnus depuis longtemps et fondés sur la Constitution qui ont été invoqués par les présidents républicains et démocrates constituerait un précédent très dangereux.
Alors que d'autres républicains ont reconnu que ces actions étaient inappropriées, ils ont déclaré que la destitution serait une peine beaucoup trop sévère. Mais pour la première fois dans l'histoire américaine, un sénateur a voté pour destituer un président de son propre parti. Et ce n'est autre que Mitt Romney, sénateur républicain.
Non, c'était un flagrant assault.
C'était une attaque flagrante contre nos droits électoraux, notre sécurité nationale et nos valeurs fondamentales. La corruption d'une élection pour se maintenir au pouvoir est peut-être la violation la plus abusive et la plus destructrice de son serment que je peux imaginer.
Le vote de Romney prive le président de la possibilité de dire que le soutien républicain à son innocence a été unanime. Et les démocrates continuent de faire valoir que le refus par les républicains d'avoir des témoins dans le procès invalide les résultats. Voici la déclaration de Chuck Schumer, il est sénateur démocrate.
Il y a un astérisque géant à côté de l'acquittement du président. L'astérisque dit qu'il a été acquitté sans fait. Il a été acquitté sans procès équitable. Et cela signifie que son acquittement est pratiquement sans valeur.
Le peuple américain va lui aussi avoir son mot à dire. Il va pouvoir juger les actions de Trump lors de la prochaine élection présidentielle de novembre. Hélène Carmack est experte au Brookings Institution.
Il y a un sentiment très puissant parmi les électeurs et parmi beaucoup de politiciens à Washington que nous sommes si près de l'échéance électorale que nous devrions vraiment laisser les électeurs décider de ce qu'ils pensent de Trump et de ce qu'ils pensent des choses qu'il a faites.
L'un des procureurs de la Chambre basse durant le procès, Jerry Nadler, a déclaré aux journalistes que les démocrates continueraient à tenir le président responsable par le biais d'enquêtes grâce à une ordonnance du tribunal réclamant le témoignage de l'ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton.
Voilà pour ce reportage réalisé par Salwa Jafari. René Lec, je commence par vous. Qu'est-ce que vous retenez de ce procès en destitution et au terme duquel, bien sûr, Donald Trump a finalement été acquitté?
Oui, écoutez, John, je considère que, bon, le résultat final était attendu. Il était quasiment impossible qu'il soit condamné, vu le nombre de républicains qui contrôlent le Sénat. Mais ce qui a été remarquable et remarqué, il me semble, c'est le fait que Mitt Romney, un républicain sénateur de l'Utah, a décidé de voter avec les démocrates et a décidé de voter coupable, en fait, donc de le condamner. C'est la première fois que cela arrive dans l'histoire des États-Unis, parce que tous les deux autres cas de procès en destitution, les votes se sont faits sur la base de la ligne du parti. Donc c'est la première fois qu'on se retrouve dans une situation où un sénateur du parti du président de la République vote contre lui. Donc c'est peut-être cela qui va être intéressant. On va voir comment dans le reste de cette histoire qui n'est pas terminée de toute évidence, comment cela va se jouer, surtout en interne au niveau du Parti républicain.
Alors, professeur Viano, René Lec parle justement du sénateur Mitt Romney qui a voté pour condamner Donald Trump. Ça empêche à ce dernier de dire que c'était une affaire des démocrates. Comment analyser la décision de Mitt Romney?
Il a dit que c'était pour sa conscience, pour le rôle que la religion joue dans sa vie, puis le fait qu'il avait pris un serment de protéger la Constitution et qu'il l'a fait naturellement avec beaucoup de difficultés, mais il a pensé que c'était son devoir de le faire. Et je pense que comme un commentaire général sur ce qui s'est passé, on peut dire, dans ma opinion naturellement, que les contre-pouvoirs ont cessé de jouer le rôle aux États-Unis. Les sénateurs attachés au Parti républicain ont fait, on peut le dire, prévaloir leur désir d'être réélus sur les serments qu'ils ont prêté de défendre la constitution de leur nation, con l'exception de Mitt Romney. Avec ce qui constituera un précédent dangereux, la faillite de ce procès est consommée d'un certain type de démocratie à dérive oligarchique. Je crois que c'est le danger maintenant ici aux États-Unis.
Alors, professeur Viano, je vous relance. Vous parlez de danger ici aux États-Unis. Effectivement, on a le sentiment que les sénateurs républicains n'ont pas défendu la Constitution, mais plutôt leur mandat. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi, au-dessus de leur tête, ces multiples tweets parfois dangereux de Donald Trump qui pèsent sur eux? Il suffirait d'un tweet contre X ou Y pour qu'il ne soit plus réélu.
Ben c'est ça ce que dit cette dérive oligarchique. C'est-à-dire que le président maintenant contrôle pratiquement le parti républicain. Il n'y a pas plus de parti républicain. Nous rappelons qu'au commencement de sa campagne, En 2016, le Parti républicain n'était pas très enthousiaste de sa candidature. Il y avait des républicains qui ne voulaient pas le candidat Trump. Mais il a obtenu un succès remarquable, incroyable, et il contrôle maintenant le Parti républicain. On l'a bien vu hier quand il y a eu cette réunion célébratoire à la Maison-Blanche. Et la majorité, il n'y avait pas de démocrates, il y avait seulement des républicains. Et comme ils l'ont fait aussi pendant le discours à la Nation le mardi passé, ils ont toujours applaudi le président avec une servilité qu'on pourrait décrire dégoûtante, parce que c'était trop, il était excessif dans ma opinion. Ils ont peur de lui. Ils ont peur de lui dans une année où sa réélection est en jeu. Et ils ont vraiment décidé qu'il n'était pas positif pour eux de faire son devoir. Il était plus important de faire prévaloir leur désir d'être réélu.
Réélu donc. Alors, René Lecq, à quel moment Trump est-il devenu si influent dans le camp républicain? Et le professeur Viano le disait tout à l'heure, au début, il n'était pas très, très supporté. Je crois qu'on a perdu la connexion avec René Lecq. On va le rappeler tout à l'heure. Mais professeur Viano, à quel moment Donald Trump est-il devenu si influent dans le camp républicain? Et vous le disiez vous-même, ce n'était pas le cas au début.
Je pense que c'est en raison de sa façon de faire campagne et sa décision de s'enfoquer, de se concentrer sur un certain pourcentage de la population américaine. C'est-à-dire qu'il a vraiment touché aussi sur des sujets très importants à certains électeurs. Par exemple, il s'est présenté comme défenseur des frontières contre l'immigration illégale. Il a répété l'autre soir ce thème, dénonçant, par exemple, la loi scandaleuse de la Californie d'être un sanctuaire pour les immigrants illégaux. Il a aussi choisi de défendre, même mardi passé, le deuxième amendement, c'est-à-dire le droit de porter des armes. Quoique il y a eu des massacres pratiquement tous les mois aux États-Unis, particulièrement dans les écoles, on n'a fait rien, absolument rien, pour contrôler cet marché qui joue un rôle très important dans l'économie américaine.
Voilà.
L'opposition à l'avortement, la nomination de juges conservateurs, il a rappelé au pays l'autre hier et pendant son discours, 139 juges très, très conservateurs, deux à la Cour suprême, même aussi l'appel à la religion, la célébration de la foi, particulièrement de la foi protestante et évangélique, qui est très conservatrice dans le sud est très puissante et qui constitue un pourcentage très important de sa base.
De sa base, donc une base qui est restée très solide. René Lec nous a rejoint. René, on parlait de la puissance finalement de Donald Trump dans le camp républicain. Les démocrates étaient à l'origine de ce procès en destitution. Donald Trump a été acquitté. N'est-ce pas là une défaite cuisante pour Nancy Pelosi et les siens?
Je ne sais pas si on peut parler de défaite, puisque c'était prévisible. Et qu'au moment où Nancy Pelosi lançait cette opération d'impeachment, elle savait qu'elle n'aboutirait pas à la destitution. Et si vous vous souvenez bien, John, elle n'était pas elle-même très favorable à l'impeachment.
Au départ, tout à fait.
Au départ, oui. C'est un peu à reculons qu'elle est rentrée dans cette opération et elle a toujours expliqué qu'il s'agissait simplement pour le Congrès de jouer son rôle constitutionnel, pour les institutions de fonctionner correctement et de jouer le rôle de contre-pouvoir, comme le disait tout à l'heure le professeur quand il intervenait. Mais si vous permettez, John, très très rapidement sur le vote de
Mitt Romney
et ce que disait tout à l'heure le professeur par rapport à un peu ce culte de la personnalité qui est en train de se développer au niveau du Parti républicain, qui est devenu clairement maintenant le parti de Donald Trump. Moi, j'ai le sentiment qu'au fond, ce que Mitt Romney a fait, c'est se positionner par rapport à l'avenir pour être une sorte d'alternative au Parti républicain. Je pense que dans quelques temps, et on va le noter, je pense, de manière assez claire dans les mois, les années qui vont suivre, on va se retrouver dans une situation d'un peu du style tout sauf Trump, et je pense que tous les gens liés à Trump d'une manière ou d'une autre vont pouvoir se retrouver autour de Mitt Romney. Alors, je crois que c'est cette carte-là qu'il cherche à jouer.
Alors René, Donald Trump a survécu à l'affaire sur l'ingérence russe dans les élections américaines. Il vient d'être acquitté dans son procès en destitution. Il y a eu plusieurs plaintes de femmes contre lui lorsqu'il lançait sa campagne. Et Donald Trump n'a jamais publié ses revenus d'impôts. Qu'est-ce qui fait sa force? Ses avocats, son caractère, ou il est simplement un gars chanceux?
Oh, j'ai l'impression que c'était un peu tout ça à la fois. Je crois qu'il a une capacité très particulière, très forte, à savoir tirer son épingle du jeu et surtout des règles du jeu. Vous savez, comme businessman, il a, il a appliqué à 2-3 reprises, en fait, pour être précis, à 7 reprises, et se retrouver en situation de banqueroute. Et ce n'était pas simplement la banqueroute au sens de bon, il a échoué, mais il utilise le système de déclaration de banqueroute comme un moyen de business pour pouvoir emprunter de l'argent, récupérer de l'argent et ne pas avoir à le rembourser. Et il le fait de manière relativement, tout ça étant relativement légal. Donc il sait utiliser les systèmes dans lesquels il évolue, le système de business financier dans lequel il était avant, et aujourd'hui, les failles du système politique, il arrive à les utiliser de telle sorte qu'on se retrouve dans une situation où les institutions, littéralement, ne jouent même plus leur rôle.
René Lec, professeur Viano, vous restez avec nous. On va permettre à deux auditeurs d'intervenir dans cette émission. Haruna Baldé, bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à vos invités également.
On vous écoute.
Voilà, bon, comme je l'ai dit dans mon commentaire, cet épilogue judiciaire vient de connaître sa fin, voilà, puisque les sénateurs ont décidé de ne plus vraiment de mettre à fin à ce procès, comme je dirais, politique en quelque sorte, qui aujourd'hui, je dirais, a donné des points à Donald Trump face aux démocrates, surtout on est en phase des élections présidentielles qui tend vers les régions en quelque sorte. Alors bon, la question que j'aimerais poser à vos invités, c'est-à-dire maintenant, vu que Donald Trump a gagné, comme si c'était une bataille, a gagné la bataille, quel sera maintenant l'argument des démocrates devant les électeurs en quelque sorte? Surtout, je voyais que Elizabeth Warren avait déchiré le discours de l'état de l'Union en quelque sorte.
Nancy Pelosi.
Vu leur mécanisme en quelque sorte.
Voilà, on va prendre également la question, ou plutôt Thierno Diallo au téléphone. Bonsoir.
Oui, bonsoir et bonsoir aux invités, à l'ensemble des invités et des frères de VOA Afrique. Moi, je pense que son acquittement, ça lui permettra encore de plus d'avoir une popularité parce que ça le permettra à avoir sa popularité à la base comme il a toujours fait. C'est que Donald Trump, c'est quelqu'un qui a toujours fait plus tout le monde, une fois que tu l'attends, et puis là, il vient avec force, il fait prendre tout le monde. Au début, les gens pensaient qu'il n'est pas si politique, mais à la longue, on voit maintenant, il est venu vraiment politiquement quelqu'un qui est très puissant. Moi, je pense que les républicains ont perdu d'avance les élections parce que son acquittement le permettra d'accéder à sa réélection pour un second mandat. C'est quelque chose que nous, on ne comprendra pas à poser à cette question parce que une fois qu'on parle autour de son mal, il retire beaucoup de donc depuis sa réélection, parler de l'implication réelle et beaucoup d'autres choses dessus là où il a certes vaincu. Je pense que les républicains ont eu vraiment raison sur les démocrates cette fois-ci.
Voilà.
Les démocrates n'ont plus rien à dire.
Merci.
Aux électeurs, parce qu'on ne sait pas dire que c'est des actifs.
Merci Thierno. Alors on va boucler cette émission avec ce dernier tour de table. René et les auditeurs parlaient tout à l'heure de la présidentielle. Comment les démocrates vont-ils faire pour trouver un candidat qui va faire obstacle à Trump? Et puis un mot sur le discours de l'Union, si vous pouvez ramasser tout cela.
Oui, c'est une excellente question, John, parce que j'avoue que le taux de participation au caucus de l'Iowa était, on parle de 170 000 votants, ce qui est à peu près l'équivalent du taux de participation en 2016. Alors qu'en 2016, comme vous vous souvenez, les démocrates n'étaient pas particulièrement mobilisés. 6 millions de démocrates n'ont pas voté en 2016, ce qui a expliqué la défaite d'Hillary Clinton. Donc on se retrouve à des taux de participation qui sont à peu près équivalents. Je crois qu'il y a de quoi être extrêmement inquiet pour les démocrates. Le rush auquel on s'attendait ne semble pas être, avoir été de mise cette fois. Donc je crois que c'est une inquiétude particulière. Par rapport au discours sur l'état de l'Union, je crois qu'il a simplement mis en lumière la division de l'Amérique. Il y a aujourd'hui deux Amériques qui s'affrontent dans une sorte de guerre civile froide. Et c'est malheureusement assez inquiétant, je dois le dire.
Alors, professeur Viano, un mot donc sur la présidentielle de novembre et puis la situation dans le camp démocrate et enfin le discours de Trump sur l'état de l'Union en quelques secondes. Vous avez une minute trente.
Oui, on peut dire que l'absolution de Trump lui laisse le champ libre pour qu'il aille peut-être encore plus loin, comme on a déjà vu hier dans sa célébration à la Maison-Blanche. Et il y a ceux qui pensent que la consolation, c'est que peut-être il va tomber plus de bon en novembre, et entraînant probablement avec lui tous les partis républicains, parce qu'on peut penser que d'ici novembre, il va sûrement faire pas mal de bourdes qui enfoncera bien tous les partis au final. C'est possible. Ils l'ont sauvé maintenant, mais ils risquent gros de le laisser encore 9 mois. Comme on dit, rira bien qui rira le dernier. Et peut-être que ça va passer comme ça. De l'autre côté, le commencement de la campagne pour les démocrates n'a pas été aussi positif comme on voulait ou comme il voulait. En Iowa, pour des raisons techniques, on n'a pas vraiment calculé bien les voix en temps et on a donné une impression qui n'était pas bien organisée. On veut voir ce qui se passe quand la campagne se déroule vraiment en toute force, particulièrement après de Iowa et New Hampshire, quand vraiment on va à des États qui représentent plus la vraie Amérique.
Voilà.
L'Iowa et le New Hampshire ne sont pas typiques du pays.
Et c'est entendu, on aurait bien voulu continuer cette émission avec vous, mais nous sommes pris par le temps. Nous allons mettre un terme à cette émission qui était produite par Michel Joseph. Zineb était à la console. John Linden vous l'a présenté. Je vous souhaite de rester à l'écoute des programmes de VO Afrique. Dans un très court instant, vous aurez rendez-vous avec l'information. Abdourahmane Dia est de retour. D'ici là, restez à l'écoute de nos programmes. Bonsoir.